évoquant la situation ultra sensible dans le golfe Persique, le détroit d'Hormuz et la mer d'Oman et certains agissements d'Israël dans cette zone stratégique, le général de division Hossein Salami, commandant en chef du corps des gardiens de la révolution islamique, a déclaré. Nous déclarons et avertissons explicitement que la poursuite de telles relations ne sont pas du tout tolérables. Ils doivent savoir que l'existence du régime sioniste diabolique, où que ce soit, est un facteur d'insécurité. Selon l'agence de presse iranienne Fars News, le général de division Hossein Salami a tenu cette déclaration ce mercredi à l'occasion d'une visite en compagnie de l'amiral Alireza Tangsiri, commandant de la marine du CGRI sur l'île iranienne de Bou Moussa. Le général Salami avait pour mission d'évaluer le niveau de préparation au combat des unités stationnées sur l'île de Bou Moussa, d'inspecter les fortifications, les équipements de défense et de rencontrer le personnel militaire. Il s'est par ailleurs félicité de la situation et des services rendus sur les îles stratégiques et a assuré une défense ferme et déterminée contre d'éventuelles menaces. Brossant un tableau détaillé sur les capacités de défense et de combat de la marine du CGRI, il a souligné. La marine du CGRI a fait des avancées extraordinaires dans les domaines des drones, des missiles, de la flottabilité, de la guerre électronique, de l'armée de l'air et des sous-marins. Elle est en mesure de réagir rapidement et efficacement à tous les niveaux, a-t-il fait savoir. Nous espérons qu'avec les importantes mesures prises par la marine du CGRI, la qualité de nos équipements, leur mise à niveau, nos performances techniques et tactiques ne cesseront de s'accroître, et ce avec les efforts inlassables de nos braves forces omniprésentes sur la mer, a-t-il fait savoir. Et de poursuivre, chaque fois que nous visitons nos positions navales, nous nous retrouvons face à de nouvelles prouesses et une montée en puissance. Nous nous rendons compte de la puissance quantitative et qualitative des drones, des sous-marins, des missiles, des unités de guerre électroniques et des autres composants de la puissance navale du CGRI. Évoquant la situation sécuritaire dans le golfe Persique, le détroit d'Hormuz et la mer d'Oman et certains agissements dans cette région, le général Salami a déclaré. Malheureusement, certains pays du sud du golfe Persique ont établi des relations politiques et sécuritaires avec le régime sioniste, ce qui représente une grave menace pour la sécurité régionale. Nous déclarons et avertissons explicitement que la poursuite de telles relations n'est pas du tout admissible. Que ces pays comprennent que l'existence du régime sioniste, diabolique partout dans le monde, est une source d'insécurité. Le commandant en chef du CGRI a appelé ces régimes à reconsidérer leur politique. La France est-elle devenue une république bananière? Macron Gate, république bananière, l'opposition monte au créneau sur l'affaire McKinsey. De nombreux politiques ont une nouvelle fois critiqué le gouvernement concernant l'affaire McKinsey après la parution d'un article du Canard enchaîné sur une supposée complaisance du ministre de l'économie envers le cabinet de conseil. Autrefois inconnu du grand public, le nom de McKinsey est maintenant sur toutes les lèvres. Les révélations sur le rôle joué par le cabinet de conseil américain dans la politique de vaccination contre le Covid-19 avaient déjà fait couler beaucoup d'encre en janvier 2021. Mais c'est bien le récent rapport de la commission d'enquête sur Sénat rendu public le 17 mars dénonçant l'emprise des cabinets de conseil sur l'appareil d'État ainsi que leurs montages fiscaux qui a mis le feu aux poutres. Un article du Canard enchaîné paru dans son édition du 30 mars a ravivé la polémique. Le journal satirique a enquêté sur la supposée faiblesse des contrôles opérés par Bercy, portant sur les pratiques d'optimisation fiscale mises en place par plusieurs filiales françaises des cabinets de conseil privés. Le Canard enchaîné se demande ainsi si l'inertie du fisc s'expliquerait par une supposée complaisance du ministre de l'économie et des finances publiques à l'égard des cabinets de conseil. La force de ces révélations est telle que certaines personnalités politiques et médias qui voit un McKinsey Gate, voire un Macron Gate, dont il faudrait tenir responsable le président de la République. C'est notamment le cas de Jean-Luc Mélenchon qui, après ses révélations, appelle à un changement de paradigme, un autre monde est possible. Nous sommes arrivés au bout d'un cycle après 40 ans de néolibéralisme avec des cabinets de conseil qui prennent des sommes folles à l'État. Des dividendes sur les grandes tâches. Le chaos du marché partout, les gens n'en peuvent plus, a-t-il affirmé sur France Inter le 30 mars. Autre candidat à la présidentielle, Nicolas Dupont-Aignan, qui dénonce le fait qu'Emmanuel Macron ne soit pas moralement choqué de refuser 800 millions d'euros d'aide aux personnes porteuses d'un handicap pour revaloriser la AH, allocation adulte handicapé, et la de déconjugaliser, mais n'a aucun problème à débourser 700 pour des cabinets conseils privés. Florent Philippot n'est pas en reste. L'ex-candidat à la présidentielle a réagi avec virulence à l'article du Grand Enchaîné. Nouvelle révélation terrible du Grand Enchaîné sur le hashtag McKinsey, Macron Gate. Bercy aurait sciemment fermé les yeux sur des montages fiscaux qui auraient dû immédiatement l'altérer. Macron doit vite s'expliquer, a-t-il tweeté. Opportuniste Eric Zemmour a sauté sur l'occasion pour faire le parallèle avec l'affaire Fillon qui avait défrayé la chronique lors de la campagne présidentielle de 2017. Qu'attend le parquet national financier pour agir? Lui qui a été si rapide pour les costumes de François Fillon, se demande-t-il. Même son de cloche chez le sénateur LR de la Côte d'Or, Alain Houpert. Comme j'ai demandé en 2017 le retrait de François Fillon, la volonté d'exemplarité affichée par le PR doit l'inciter à se montrer digne et à se retirer. La France ne peut être une république bananière, elle mérite mieux que cela, a-t-il lancé. Le 17 mars, la commission d'enquête du Sénat a publié un rapport explosif dans lequel elle dénonce l'influence disproportionnée des cabinets de conseil sur le gouvernement. Dans son rapport, la commission décrit un phénomène tentaculaire au coût croissant pour les finances publiques. Pire encore, elle accuse de surcroît les entités françaises de McKinsey d'optimisation fiscale de telle sorte qu'elle n'aurait versé aucun impôt sur les sociétés entre 2011 et 2020. Le 27 mars, sur France 3, le président de la République a jugé que la polémique autour des contrats passés avec le cabinet américain McKinsey n'avait pas lieu d'être et se défend d'avoir enfreint les règles d'attribution des marchés publics. S'il y a preuve de manipulation, que ça aille au pénal, a-t-il lancé avant d'assurer qu'il n'y avait pas de combine avec McKinsey. L'Irak exigera des indemnités à l'entité sioniste. L'Irak envisage de demander à Israël des indemnisations pour le bombardement de son réacteur nucléaire en 1981. L'Irak a annoncé le mardi 29 mars avoir commencé à étudier les mécanismes de demande d'indemnisation pour le bombardement israélien du réacteur nucléaire de Tamuz au sud-est de Bagdad en 1981. Le bureau des médias du Conseil irakien à la sécurité nationale, Qasem al-Araji, a déclaré dans un communiqué que ce dernier a discuté lors d'une réunion avec des responsables du ministère des Affaires étrangères de l'énergie atomique à Bagdad des moyens et des mécanismes pour revendiquer la compensation à l'Irak pour le bombardement du réacteur. Le communiqué ajoute que cette réclamation est fondée sur la résolution numéro 487 de 1981 du Conseil de sécurité des Nations Unies et conformément aux moyens et options juridiques qui garantissent que l'Irak obtient des droits conformément aux lois et pactes internationaux. Il a ajouté qu'au cours de la réunion, il avait été souligné que les droits de l'Irak étaient en harmonie avec les résolutions du Conseil de sécurité de l'ONU et les obligations de l'Agence internationale de l'énergie atomique, soulignant que les axes du sujet seraient présentés ultérieurement au Premier ministre Mustafa al-Kazemi de décider des mécanismes pour établir les droits de l'Irak dans ce dossier et travailler à les restaurer. Sénat. Et la résolution numéro 487 du Conseil de sécurité de l'ONU stipule que l'Irak a le droit d'obtenir une compensation pour l'attaque israélienne contre le réacteur nucléaire de Tamuz, dont la construction a été supervisée par des ingénieurs français et italiens. Le 7 juin 1981, des avions israéliens ont bombardé le réacteur qui était encore en cours de construction avec l'appui technique de la France, provoquant la destruction de grandes parties de celui-ci. L'attaque israélienne a aussi tué au moins 10 soldats irakiens et un civil français. Après le pétrodollar, le pétrorouble. La terrible et pénible guerre russe-ukrainienne sur le terrain est flanquée d'une guerre financière qui a commencé par des sanctions et l'utilisation du système SWIFT pour geler la finance russe, qui répond maintenant par une demande d'obtenir des paiements en roubles pour son énergie, son gaz et son pétrole. Soit $1 milliard par jour, le rouble pétrolier se range-t-il aux côtés du pétrodollar dans la guerre des devises ? Afin de comprendre la signification de cette opération qui vise à soutenir le rouble, mais aussi à soutenir de manière incisive un processus de dédollarisation avec la Chine, il est utile de rappeler la naissance du pétrodollar et du système SWIFT. Le pétrodollar a été créé en 1973 en même temps que le SWIFT pour soutenir le dollar dont l'émission a été détachée de l'étalon or en 1971, créant ainsi un système infini de production monétaire basé sur le dollar et constamment exposé à des turbulences inflationnistes. L'évolution des systèmes économiques a modifié les conditions qui permettaient au dollar d'être utilisé presque exclusivement dans les transactions financières avec, mais dans une moindre mesure, l'euro. Les développements géopolitiques ont renforcé d'autres économies, en premier lieu la Chine, qui ont progressivement partagé un projet de dédollarisation afin de pouvoir utiliser leur monnaie de manière alternative. Les accords qui sont aujourd'hui sur la table concernant l'échange de pétrole en monnaie locale entre l'Iran, les États arabes et la Chine, qui pourraient payer ses fournitures en yuan, ainsi que l'Inde et la Russie, qui peuvent régler leurs échanges dans leur propre monnaie, sont de bons exemples. Il convient de noter que la Chine et la Russie courent après l'or afin de donner à leur devise un support en or. Et la Chine a déjà émis des contrats à terme liés à l'or. La Chine et la Russie ont déjà réduit leurs échanges en dollars de 80% à 40%. L'introduction d'un système de paiement lié à des monnaies autres que le dollar réduit la demande de cette monnaie et risque de déclencher un processus inflationniste. Comme nous pouvons le constater aujourd'hui, ainsi qu'une éventuelle dévaluation de celle-ci, une once de or vaut plus de $2000. De cette manière, les États-Unis courent le risque de voir la demande de dollars diminuer face à une offre illimitée de dollars. Et il est clair que si le processus de dédollarisation se poursuit, le dollar devra compter avec sa faiblesse croissante en raison de la logique qui sous-entend l'équilibre entre l'offre et la demande de monnaie. Comme Karl von Clausewitz l'a affirmé, la politique devient une guerre dramatique sur le terrain et une guerre monétaire sur les marchés financiers. Les deux guerres se déroulent sur le même plan, créant un désordre non seulement dans les principes de protection des personnes avec la guerre sur le terrain, mais aussi avec le déséquilibre des économies mondiales. Après l'affaire Nord Stream 2, l'un des éléments déclencheurs du conflit russo-ukrainien, fabriqué de toutes pièces par le sionisme, avec tout ce que cette guerre insensée entraîne en termes de pertes humaines et matérielles. Les Allemands doivent s'attendre à devenir, excusez mon franc-parler, il faut appeler un chat un chat, des lèche-bottes des soldats américains eux-mêmes subordonnés des francs-maçons sionistes. Le piège des néoconservateurs sionistes et des anti-allemands rancuniers se referme sur les Allemands. La marine américaine déploie 6 avions de guerre électronique EA-18 Growler en Allemagne. Alors que les avions de guerre électronique EA-18 chez Growler du VAC 137, escadron d'attaque électronique 137, ROCKS, embarqués à bord du porte-avions USS Harry S. Truman, peuvent être sollicités pour mener des missions au profit de l'OTAN à partir de la Méditerranée, les États-Unis ont considéré qu'il fallait renforcer cette capacité en Europe. C'est ce qu'on lit sur OPEX 360, qui explique ce qui suit. Ainsi, le 28 mars, le porte-parole du Pentagone, John Kirby, a annoncé que si EA-18G du VAC, 134 Garudas, mis en œuvre par un détachement de 240 Marines de l'US Navy, serait envoyé en Allemagne, plus précisément sur la base aérienne de Spang-Dahlem. Ou 12 F-35A de l'US Air Force avait été déjà déployé quelques jours avant le début de l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Ces 6 EA-18G ne seront pas déployés pour être utilisés contre les forces russes en Ukraine, a assuré M. Kirby. Le renvoi en Allemagne a été décidé dans le cadre de nos efforts pour renforcer les capacités de dissuasion et de défense le long du flanc oriental de l'OTAN, a-t-il ajouté. Selon M. Kirby, la décision d'envoyer ces EA-18G en Allemagne n'a pas été motivée par une menace ou un incident spécifique. Ils sont déployés à Spang-Dahlem car le secrétaire à la Défense veut garder toutes les options ouvertes, a-t-il dit. Il est en relation constante avec le commandant suprême des forces alliées en Europe, sa sœur, c'est-à-dire le général américain Todd de Walters. Et à la suite d'une discussion avec celui-ci ainsi qu'avec le gouvernement allemand, il a été estimé que cela permettrait de continuer à renforcer nos défenses sur le flanc oriental de l'OTAN, a-t-il détaillé. A noter que c'est la première fois que des EA-18G Growler sont déployés en Allemagne. Le précédent gouvernement allemand avait souhaité en acquérir 15 exemplaires afin de remplacer les Tornado ECR de la Bundeswehr. Mais un tel achat n'est a priori plus d'actualité. Berlin ayant fait récemment part de sa décision de se procurer jusqu'à 35 avions de 5e génération F-35A ainsi que sans doute des Eurofighter EF-2000 en version OCR site.